Et le pays du Vietnam, c'est un.
But Britain is not saying goodbye to Hong Kong.
Histoire d'Asie, le podcast qui retrace l'histoire asiatique en faisant parler de jeunes chercheurs.
Peut-être qu'en restituant ce passé, c'est-à-dire l'importance de l'Asie, ça poussera à penser.
Pour ce tout premier épisode, je reçois François Drémeau, visiting assistant professeur à l'Université de Hong Kong et chercheur associé au laboratoire ID UMR 6266 à l'Université du Havre. Et en 2016, il a soutenu sa thèse sur la présence française à Hong Kong dans l'entre-deux-guerres. Merci, tout d'abord, je tiens à te remercier de prendre ton temps donc, durant ce confinement pour nous parler donc, de ta thèse sur la présence française à Hong Kong. Question d'abord, question rituelle. Alors, pourquoi cette tournée vers l'Asie? Y a-t-il une passion particulière ou autre chose?
Ben merci de m'avoir invité pour ce podcast. C'est toujours un plaisir de partager une passion pour l'histoire, surtout que le travail de thèse en particulier est un travail plutôt solitaire, surtout dans les circonstances dans lesquelles moi je l'ai effectué à Hong Kong. Pour répondre à ta question sur pourquoi s'être tourné vers l'Asie, j'aurais tendance à dire qu'il y a une grande part de hasard quand même. Moi, ce sont plutôt les circonstances politiques et je l'expliquerai aussi peut-être par la littérature, mais En 2002, j'étais en poste au lycée français Jean Mermoz en Côte d'Ivoire. Ça a été une année un peu compliquée avec coup d'État, guerre civile, etc. Et donc, j'ai fait des demandes vraiment tous azimuts pour partir ailleurs dans le réseau de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et puis, un jour est arrivé ce que je n'aurais pas espéré parce que j'étais à l'époque très jeune et donc peu expérimenté dans l'enseignement. J'avais tout juste 22 ans. On m'a proposé un poste à Ho Chi Minh Ville. Alors là, ça a déclenché vraiment chez moi tout un tas de souvenirs de lecture. Et c'est là que, certes, l'Asie, je suis allé vers elle un peu par hasard en fonction de ses circonstances professionnelles, mais ça a quand même réveillé aussi un tropisme que je cultivais depuis ma jeunesse, un tropisme qui vient de la littérature. Et là, j'aurais tendance à dire par ordre de maturité, moi, mes souvenirs d'Asie en littérature, c'est d'abord les Bom Moran. Énormément d'aventures de Bom Moran se passent en Asie, et ça m'a toujours beaucoup amusé et intéressé quand j'étais ado, pré-ado. Et après, j'ai découvert la bande dessinée initiatique de Franck Le Gall, qui s'appelle Théodore Poussin, qui est une magnifique bande dessinée avec un premier cycle en 6 tomes qui est vraiment digne d'un très beau roman initiatique qui se passe également en Indochine, essentiellement.
Ouais, moi, pour te faire la confidence, moi, j'ai découvert Hong Kong avec la bande dessinée Les Innommables.
Eh oui, tu vois, comme quoi, voilà, la bande dessinée, qui est un médium sur lequel on a peut-être encore trop tendance à qu'on a peut-être trop tendance à mépriser encore, peut créer de belles vocations. Et puis bon, évidemment, quand je parlais par ordre de maturité, à peu près au moment du baccalauréat, un peu après le baccalauréat, j'ai découvert Joseph Conrad. Et là, ça a été une vraie plongée dans une Asie beaucoup moins fantasmée. Alors, on pourrait en disserter avec Conrad aussi, mais par son vécu, voilà, c'est une Asie qui m'a vraiment fasciné, qui m'a donné envie d'aller voir un peu plus près, un peu plus précisément ce qui s'était passé à l'époque de Conrad dans cet Extrême-Orient qu'il a su rendre à la fois mystérieux par bien des aspects, c'est-à-dire qu'il lui a conservé cette image qu'on a de l'Asie qui est souvent fantasmée et faite de clichés, tout en donnant un réalisme vraiment, vraiment intéressant à tout ce qui est entreprise de navigation, destinée de ces hommes un peu perdus qui bon, font ce qu'ils peuvent pour survivre et qui sont bien loin du mythe en général des grands bâtisseurs d'empires coloniaux.
En 2016, tu as sous ta thèse « Présence française à Hong Kong dans l'entre-deux-guerres, rôle, interaction et représentation ». D'abord, avant de passer au cœur de ton travail, on peut faire un court rappel historique et géographique d'Hong Kong, histoire de présenter le territoire.
Bien sûr. Hong Kong, bon, c'est un territoire au sud de la Chine, plus précisément au sud de la province du Guangdong, légèrement à l'ouest du delta de la rivière des Perles. Ce qui est intéressant, en particulier pour mon sujet et à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, en termes de navigation, c'est à égale distance entre Saïgon et Shanghai. Donc, il y a un intérêt pour les Français qu'on développera peut-être un peu plus tard. Et puis, d'un point de vue historique, alors rapidement, on peut brosser en trois étapes étape majeure, la formation du territoire de Hong Kong. Au terme de la première guerre de l'opium entre 1839 et 1841, il y a ce qu'on appelle la convention de Chuen Phi, le 20 janvier 1841, qui donne une première fois le territoire de Hong Kong aux Anglais, aux Britanniques. J'insiste sur cette convention de Chuen Phi, parce qu'on dit souvent que c'est le traité de Nankin qui fait en sorte que les Anglais prennent possession de Hong Kong. En réalité, dès janvier 1841, le drapeau britannique flotte sur Hong Kong. Et d'ailleurs, ça commence même par Reclamation Street. Aujourd'hui encore, il y a dans le quartier de Cheung Wan à Hong Kong une rue qui s'appelle Reclamation Street, qui est la rue, en fait, où, depuis le rivage, les Britanniques sont montés pour la première fois sur la terre de l'île de Hong Kong.
Et donc, quand on parle avec la convention de Chuen Phi, on parle de l'île de Hong Kong. On ne parle pas encore des territoires continentaux.
Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et quand je parlais de trois étapes majeures dans la construction de Hong Kong, c'est que, effectivement, cette première occupation, cette première invasion, dans le cadre du premier traité inégal, selon effectivement les termes consacrés désormais, c'est la cession à perpétuité de l'île de Hong Kong. Ensuite, il faut attendre la deuxième guerre de l'opium entre 1856 et 1860 pour que, au moment de la convention de Pékin, eh bien, les Britanniques s'octroient ce qu'on appelle la péninsule de Kowloon, qui est vraiment, alors là on est sur le continent, mais on est vraiment sur la péninsule, la toute petite pointe juste en face de l'île de Hong Kong, et là encore c'est une cession à perpétuité à la couronne britannique. Et puis, il faut attendre une troisième étape pour que le territoire de Hong Kong, tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit complet. C'est en 1898, au moment où les puissances occidentales, y compris aussi d'ailleurs les Japonais, s'octroient des territoires encore sur le dos de la Chine. Et donc, en 1898, au moment où ces nombreux traités sont signés, c'est une période assez active aussi d'un point de vue diplomatique, où on enfonce encore la Chine sur le déclin, eh bien là, les Britanniques réclament les nouveaux territoires. Alors, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les nouveaux territoires à Hong Kong, bon, qui ne sont plus si nouveaux que ça, puisqu'ils datent de 1888, mais l'expression est restée. Et là, la différence, c'est que ces nouveaux territoires sont cédés selon la signature d'un contrat d'un bail de 99 ans. Il ne s'agit pas d'une cession à perpétuité, c'est vraiment un bail de 99 ans. Et ces nouveaux territoires représentent 80% de la superficie du territoire de Hong Kong, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tant que zone administrative spéciale.
Voilà, donc on a brossé à grands traits donc, l'histoire d'Hong Kong. Donc toi, tu as choisi l'entre-deux-guerres, c'est donc de 1918 à 1941 pour l'Asie ?
Oui, en fait, pourquoi l'entre-deux-guerres ? Il ne faut pas feindre d'ignorer les raisons de sa curiosité. Hein, c'est que c'est vraiment une période qui me fascine et qui me plaît énormément. Donc, je suis allé naturellement vers cette période. Bon, il y a aussi un intérêt qui est beaucoup plus technique. C'est que je cherchais un temps court pour étudier toutes les facettes des présences françaises. On va en parler peut-être un peu après. Mais je voulais avoir vraiment une vision holistique des présences françaises. Ce que je ne pouvais pas faire sur un temps long, qui me paraissait trop compliqué à appréhender. Je voulais une parenthèse courte qui pourrait servir en fait de laboratoire à l'étude des présences françaises. Alors, la fin n'a pas fait de pli, hein, c'était facile. Le coup près, c'est le 8 décembre 1941. C'est un coup d'arrêt brutal, vraiment, pour l'histoire de Hong Kong. C'est l'invasion japonaise. C'est clair, c'est net.
Oui, c'est ce qu'on a appelé le fameux Black Christmas.
Voilà,
l'invasion par les Japonais.
Voilà, exactement. Les Japonais envahissent le territoire le 8 décembre 1941. S'ensuit la fameuse bataille de Hong Kong qui donne lieu à la fin à la reddition des forces britanniques. Et pas que britanniques, d'ailleurs, c'est toujours utile de le préciser. Il y avait à la fin beaucoup de Canadiens et d'Indiens qui défendaient le territoire de Hong Kong. Et c'est ça, le fameux Black Christmas, la reddition du 25 décembre 1941. Bon, ça, c'était facile. Mais il faut quand même souligner que l'arrêt traditionnel de l'entre-deux-guerres tel qu'on le conçoit en Europe particulièrement, n'avait pas de sens. On n'allait pas s'arrêter en 1939, parce que si on regarde bien les documents dans les archives, 1939, oui, certes, il y a quelques soubresauts au sein de la communauté française, il y a des inquiétudes, mais finalement, le commerce, la diplomatie, les activités françaises à Hong Kong continuent relativement bien à Hong Kong entre 1939 et fin 1940. Et puis, de toute manière, la guerre est déjà une réalité autour de Hong Kong depuis 1937. Hein. Il faut pas oublier que en octobre 38, les Japonais ont pris possession de Canton et en fait enferment Hong Kong dans une bulle qui est quand même relativement précaire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle la fin, c'était 1941. Par contre, le début, c'était plus ambigu. J'ai eu plus de difficultés à fixer une date de départ parce que il me paraissait plus pertinent, parce que nous sommes quand même en Chine et en Extrême-Orient, il me paraissait plus pertinent au début de choisir 1911, parce que c'est un changement politique majeur en Chine, la fin de l'Empire. Et plus j'arpentais les archives, plus je me suis aperçu en fait que ce changement politique majeur, structurellement sur Hong Kong, il n'a vraiment que peu d'effet. Et encore moins si on considère les activités françaises. Donc, je suis revenu vers une date plus qui correspond davantage à l'historiographie occidentale, européenne. C'est la fin de la Première Guerre mondiale et donc 1918. Parce que là, par contre, on peut observer quand même de nombreux changements, y compris à Hong Kong. Il y a quand même 25% de la population masculine britannique qui est partie pendant la Première Guerre mondiale, qui laisse donc la place libre, d'un point de vue commercial notamment, à la bourgeoisie chinoise et à certains entrepreneurs et à des initiatives d'autres Européens, notamment français. 1918 me paraissait plus pertinent pour commencer. Et puis 1918, après la Première Guerre mondiale, on a le sentiment vraiment dans les documents d'entrer dans une nouvelle ère, ça transpire à travers les ressources diplomatiques. Et puis, puisqu'on parle du consulat, il y a au sein du ministère des Affaires étrangères un véritable redéploiement diplomatique.
Qu'est-ce qu'on entend par justement les présences françaises ?
Alors, je me suis aperçu que quand on parlait de présence en histoire, on associait souvent ce terme à une occupation militaire ou plus récemment à une implantation économique. Et souvent, on retrouve le terme de présence dans un contexte impérialiste, pour ne pas dire même très régulièrement dans un contexte colonial. Du coup, j'étais pas vraiment satisfait avec cette utilisation du terme de présence française parce que c'est toujours une facette précise et je voyais rarement, pour ainsi dire quasiment jamais, d'approche globale. Et là, je dois confesser avoir été probablement influencé par mon expérience de Français qui a vécu à l'étranger, où j'ai côtoyé, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Vietnam ou après à Hong Kong, des formes de présence qui sont extrêmement variées. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi n'appliquerait-on pas cette vision de la présence française que j'ai à mon époque à l'histoire, en fait. Alors, on peut pas calquer tout exactement, mais dans les termes, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de mélanges. On a, par exemple, aujourd'hui, ces expatriés qui sont, en fait, dans l'acception sociale du terme, vraiment quelque chose de... Enfin, les expatriés, aujourd'hui, sont des gens qui partent de France avec une mission, un contrat privilégié, des conditions privilégiées. Ce sont pas forcément des Français de l'étranger. Et également, ce terme de Français de l'étranger, il est assez ambigu. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui habite en Guyane en Nouvelle-Calédonie est un Français de l'étranger ? Aujourd'hui, on répond naturellement non. C'est un Français d'outre-mer. Mais alors, du coup, les Français qui vivent à Hong Kong dans l'entre-deux-guerres, est-ce que ce sont des Français d'outre-mer ? Ou est-ce qu'on les associe au nom du courant historiographique de l'impérialisme informel à des colons aussi, d'une certaine manière ? En même temps, ça n'est pas leur colonie. Donc, il y avait beaucoup de confusion, et en tout cas, moi, j'ai senti vraiment le besoin d'éclaircir un peu tous ces termes. Et donc, pour faire simple, la grande question que je me suis posée, c'est est-ce que les Français qui vivent à Hong Kong dans l'entre-deux-guerres sont des Français de l'étranger, avec évidemment peut-être une appréciation différente du terme par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, ou des représentations d'un impérialisme informel, ou quelque chose entre les deux qui n'a pas encore été bien cerné par l'historiographie. Voilà. Alors, il faut préciser quand même tout cela. Je l'ai pas non plus complètement inventé de nulle part. C'est vrai que les travaux du Britannique Robert Bickers a fait germer en fait cette réflexion quand il évoque les Chang Islanders et qu'il a vraiment imposé à l'historiographie le concept de sojourners. Là, j'ai trouvé que c'était une percée vraiment intéressante et je voulais aussi essayer d'appliquer ces concepts à l'historiographie française. Alors, enfin, dernière petite chose aussi, quand on parle de présence, quand je disais que je voulais avoir une approche vraiment holistique de ces présences françaises, je me suis aperçu également qu'on s'intéressait aussi rarement à ce que j'ai appelé des présences désincarnées et des présences immatérielles. C'est-à-dire que la présence française, ça n'est pas que des Français en chair et en os. C'est aussi, donc, ce que j'ai appelé la présence désincarnée, ce sont des productions françaises, quand on va importer du champagne à Hong Kong, par exemple, on importe une présence désincarnée de la France, mais on n'a pas besoin des Français pour importer du champagne. Mais pourtant, on importe aussi une idée de la France. Et puis, les présences immatérielles, c'est la langue, c'est la culture. La langue française n'est pas nécessairement enseignée par des Français. À Hong Kong, d'ailleurs, c'est même assez souvent peu le cas. Et puis, la culture française, quand, pour prendre n'importe quel exemple, un jeune étudiant à Hong Kong va lire un roman de Victor Hugo, traduit en anglais, certes, mais eh bien, il va lire un morceau de culture française, mais c'est une présence qui est immatérielle, hormis par la matérialisation du livre, mais l'idée de la culture qu'on peut s'en faire est une présence immatérielle. Et j'ai voulu aussi cerner ces présences françaises et l'influence qu'elles pouvaient avoir sur un territoire comme Hong Kong à cette époque.
En tout cas, la lecture en fait, de l'introduction de ta thèse, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que cette étude, on va dire, des Français de l'étranger, soit vraiment une thématique, et ça, je reprends tes mots, un peu en friche, ou encore à construire, car en effet, il y a vraiment très peu de travaux, à part peut-être en Indochine. Comment ça se fait que ce thème-là soit un peu, on va dire, oui, en friche?
Oui, alors déjà, la première chose, c'est est-ce qu'on considère des Français colons qui vivent en Indochine comme des Français de l'étranger? Moi, j'ai toujours un peu de mal à me dire que à partir du moment où on va dans un territoire qui a été envahi par la France, qui sert au prestige de la France, où on impose sa langue, son administration, sa religion. Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore à l'étranger? Le sens de ces personnes qui vivent en Indochine à l'époque, il est probablement pas celui de Français qui vivent dans un contexte complètement étranger où eux doivent s'adapter à une autre culture, à une autre langue et à une autre administration. Donc c'est là que justement je pense qu'on a besoin de nuances. Et effectivement, quand on réfléchit aux choses sous cet angle, eh bien, on s'aperçoit que les Français de l'étranger, appelons-les comme ça, même si bon, là, on peut en débattre d'un point de vue historiographique sur l'application en fait de cette terminologie en histoire avant la décolonisation. Si on voit les choses sous cet angle, effectivement, on s'aperçoit que il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur le sujet. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on voit qu'il y a peu de travaux académiques. En revanche, il y a beaucoup d'initiatives de passionnés et de sociétés d'histoire locales qui ont essayé, parfois par le biais des consulats ou d'instituts français, de s'intéresser à ce qu'était la présence française à un moment donné dans un pays étranger. Et puis, quelque part, ça nous permet aussi de voir notre histoire mondiale de la France sous un autre angle. C'est quand même quelque chose d'assez à la mode d'un point de vue historiographique.
L'histoire mondiale, oui. Depuis le courant d'histoire mondiale, oui.
Exactement, l'ouvrage qui a été dirigé par Patrick Boucheron a quand même bien des vertus, et notamment celui d'avoir ouvert l'histoire de la France à une autre approche. C'est quelque chose qui était sous-jacent depuis quelque temps, et je trouve que justement, on a un peu oublié que les Français qui ont vécu à l'étranger font partie de cette histoire mondiale de la France. Et j'étais surpris en allant aux archives diplomatiques de la Courneuve de voir que finalement, il y a quelques recensements de Français à l'étranger établis hors de France au milieu du 19e siècle. Si mes souvenirs sont bons, je crois que le premier recensement des Français établis hors de France commence en 1848. C'est la Deuxième République qui se pose cette question pour la première fois. Et finalement, il faut vraiment attendre les années 30 pour qu'on s'intéresse vraiment à ces Français qui se sont disséminés hors du pays, et qu'on s'aperçoive qu'en fait, ils représentent parfois une plus-value. Et c'est là l'époque de la création de l'Union des Français de l'étranger, hein, de mémoire, je crois que c'est 1927. C'est un moment où on commence à s'intéresser à ces présences françaises. Dans un contexte qui est encore colonial, alors qu'on ne rattache pas ces Français à l'époque, on ne les considère pas du tout comme des colons non plus. Donc c'est là aussi que je tiens à faire cette distinction. C'est parce que même à l'époque, au temps des impérialismes, on ne les considère pas comme des colons. D'ailleurs, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des Français de l'étranger, et on a un ministère des colonies par ailleurs pour s'occuper évidemment de tout le personnel administratif colonial et des gens qui vivent dans les colonies.
Quelles ont été vraiment les sources de ton travail, surtout, et ça aidera aussi les futurs chercheurs, leur localisation?
Pour ma part, 60% de mes sources proviennent des archives diplomatiques, Nantes et la Courneuve. Nantes pour les archives consulaires et la Courneuve pour les archives qui viennent de l'administration centrale, donc en général donc du MEA. Je dis 60%, je suis en mesure de donner des chiffres assez précis, parce qu'en fait, ma méthode de travail, je me suis rapidement aperçu que mes sources, alors je vivais à Hong Kong, mais mes sources étaient ailleurs, en France essentiellement, en Europe globalement. Et donc, je passais beaucoup d'été à photographier l'intégralité des cartons dans lesquels je trouvais des informations. Et donc, j'ai constitué une banque de données d'un peu plus de 50 000 fichiers photographiques qui sont classés par source. Donc, je peux savoir exactement le pourcentage de masse documentaire dans chaque centre d'archives. Donc, 60%, c'est voilà, le chiffre précis qui vient des archives diplomatiques, Nantes et la Courneuve ensemble. Le reste est un peu dispersé, ce sont des archives publiques, hein, les archives donc de French Lines et compagnie, qui sont les archives des anciennes compagnies maritimes, et pour ce qui me concerne essentiellement évidemment les messageries maritimes, les archives évidemment nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence, et puis également des archives privées d'institutions, les missions étrangères de Paris, rue du Bac, également les banques, les archives du Crédit Agricole, qui est le successeur de la Banque de l'Indochine, et puis des archives privées familiales qui m'ont souvent été d'un grand secours. En fait, même si ces archives privées familiales sont en quantité bien moindre, elles ont été d'un grand secours pour étudier ce que j'ai appelé les présences négligées, que sont notamment les femmes et les enfants, dont les institutions parlent peu. Et donc, voilà, ces archives familiales, c'est l'avantage d'avoir fait une thèse au long cours, hein. J'ai mis 5 ans et demi à réaliser cette thèse, et j'avais auparavant déjà commencé à travailler sur les présences françaises à Hong Kong dans le cadre d'un autre ouvrage qui est paru en 2012. Et je crois que c'est ce temps long pour réaliser ce travail qui m'a permis aussi d'avoir pas mal de connexions et donc de faire connaissance avec beaucoup de réseaux familiaux qui m'ont connecté à des archives familiales. Donc, et ça a été aussi une grande chance. Donc, c'est essentiellement des archives françaises, donc, mais il ne faut pas oublier également les National Archives de Londres, qui ont été fort précieuses pour avoir un point de vue de l'autre côté, c'est-à-dire un point de vue administratif du point de vue britannique. Et il faut souligner, à ma grande déception, qu'il y a peu de choses, en fait, à Hong Kong même, à part les archives du diocèse et les archives des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, donc des archives religieuses. Mais peu de choses à Hong Kong parce que une grande partie des archives a été rapatriée vers l'Angleterre au moment de la rétrocession. Et puis, d'une manière générale, ça n'est pas faux de dire que les archives de Hong Kong sont très pauvres avant 1941 parce que les Japonais ont détruit énormément de documents. Donc, au moment de l'invasion en 1941, les Britanniques rapatrient les documents sensibles et tout ce qui était documents publics peu sensibles, mais qui, nous, historiens, auraient pu nous intéresser, sont souvent des documents qui ont été détruits au moment de l'occupation. Donc, les archives à Hong Kong, les archives publiques de Hong Kong sont malheureusement d'une très faible aide.
Tu as utilisé les archives aussi de Phnom Penh ou pas ?
Non. J'ai voulu à un moment donné, via les inventaires, enfin l'inventaire, le fameux inventaire Boudet aux archives d'Aix-en-Provence, j'ai donc eu les correspondances avec le résident supérieur du Tonkin, avec l'administration en place à Phnom Penh, etc. Et quand j'ai voulu m'intéresser aux archives qui étaient au Vietnam notamment, j'avoue avoir été un peu découragé par les procédures pour aller accéder en fait aux documents qui restent conservés au Vietnam. Et donc, il aurait fallu pour ça faire de nouveaux déplacements avec de nombreuses autorisations. Donc, j'ai négligé la partie vietnamienne, d'autant que l'inventaire Boudet m'a montré à Aix-en-Provence que les documents qui sont au Vietnam étaient quand même d'une importance moindre. Et donc, j'ai négligé par la même occasion les archives qui sont à Phnom Penh. Pour ce que j'en sais, d'après ce que j'avais demandé à un ami, il est fort peu probable que les correspondances avec le consulat de France à Hong Kong m'aient appris autre chose que je ne savais pas déjà par les correspondances à l'arrivée et au départ, qui ont été très bien conservées aux archives diplomatiques de Nantes.
Avant d'entrer dans cette période de l'entre-deux-guerres, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on sait quel est le premier Français ou le premier groupe de Français qui a posé le pied à Hong Kong ?
Alors, c'est toujours délicat de répondre à cette question.
Oui, bien sûr.
Mais pour l'anecdote, on sait que les marins français fréquentaient les alentours de l'île de Hong Kong avant même les Britanniques. On a aux archives diplomatiques de la Courneuve une très très belle carte qui date de 1720 et on voit que les côtes sont parfois très peu précises dans leur dessin, mais l'île de Hong Kong, elle est très précisément dessinée à l'époque. Donc on peut supposer que le cartographe qui a dessiné ce plan en 1720, s'il n'a pas posé les pieds à Hong Kong, en tout cas, il a fait au moins le tour de l'île, ça c'est certain. Et puis après, l'autre anecdote assez amusante, c'est que le peintre de marine Auguste Borget a posé son chevalet aux alentours de Hong Kong en 1838, donc 3 ans avant l'arrivée formelle des Britanniques, puisqu'il a ramené en France quelques très jolies peintures, et notamment une vue de l'île de Hong Kong depuis la péninsule de Kowloon. Très exactement, on imagine qu'il est à peu près là où il y a l'hôtel Peninsula aujourd'hui à Tsim Sha Tsui, et on voit l'île de Hong Kong. Alors, il y a une vue d'artiste parce qu'il a rapproché Stonecutter's Island sur la droite de sa peinture, mais on reconnaît les immeubles en moins, on reconnaît effectivement l'île de Hong Kong. Donc vous voyez, juste avant l'arrivée des Britanniques, on a déjà des traces de la présence française. Bon, elle est purement anecdotique, hein, cette présence française. La première véritable présence à Hong Kong, après que les Britanniques se sont installés sur le territoire, elle date vraiment de 1847. C'est les pères des missions étrangères de Paris, et notamment le procureur des missions étrangères de Paris, Napoléon Libois, qui, fatigué des tracasseries portugaises à Macao, à cette époque-là, à Macao, on privilégie les jésuites ou les congrégations religieuses hispaniques, et donc très peu ces Français qu'on voit d'un mauvais œil. Et donc le père Napoléon Libois en a un peu marre, et donc il décide de faire le pari de s'installer dans cette toute jeune et nouvelle colonie de Hong Kong, colonie britannique. Et c'est amusant quand on lit la correspondance et qu'on voit que ses supérieurs à Paris lui disent mais vous êtes fou, ça ne marchera jamais, cette colonie n'a aucun avenir. Donc on voit, bon, alors je sais pas si on peut dire que Napoléon Libois a été visionnaire ou simplement culotté, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la première présence française à Hong Kong, c'est cette présence religieuse. Et un an plus tard, par le biais des MEP d'ailleurs, des missions étrangères de Paris, Théodore Forcade, qui était un évêque virtuel du Japon mais installé à Hong Kong, fait venir les sœurs de Saint-Paul de Chartres à Hong Kong aussi. Donc très rapidement, on voit quand même que la présence religieuse est importante à Hong Kong, présence religieuse française. Après, le premier consul de carrière, lui, il n'arrive qu'en 1862. Alors avant, on a des consuls honoraires. Alors c'est assez drôle d'ailleurs pour la petite anecdote. Le premier consul honoraire qu'on trouve en 1849, c'est un Américain qui s'appelle George Louis Haskell. Et alors le ministre plénipotentiaire se défend de dire que voilà, on a mis un Américain, mais il a une mère qui était alsacienne, donc ça sauve un peu l'histoire. Et pourquoi on met un Américain comme consul honoraire et non pas un Français, parce qu'il y a quand même des commerçants français? Et le ministre plénipotentiaire a cette expression savoureuse, il dit: nous n'avons trouvé ici que, je cite, de fieffés coquins. Donc, ce qui laisse penser que les premières vraies présences françaises à Hong Kong n'étaient pas forcément honorables. Et c'est intéressant, ça aussi, ça a guidé mon travail dans l'entre-deux-guerres. C'est une des choses que je voulais mettre en avant. Quand je dis que je voulais une présence française et une approche holistique, c'est vraiment montrer toutes les formes de présence française, y compris celles qu'on veut cacher.
Ouais, oui, oui. D'ailleurs, cette partie-là, c'est vraiment le sel de ta thèse, mais ça, on y reviendra après.
Si je reviens sur le premier consul de carrière, ça montre aussi deux choses. La première, c'est qu'on ne croit pas toujours encore vraiment bien au succès de Hong Kong. On met un jeune consul de 29 ans, Ernest Napoléon Godot. C'est son deuxième poste à l'étranger, sachant que son premier poste, c'était à Nice, qui à l'époque est encore étranger, dans le comtat vénécin. Et donc, on l'envoie là, il a peu de moyens, mais on décide quand même de mettre un premier consul de carrière. Pourquoi? Selon moi, c'est parce que la même année arrive la première agence bancaire à Hong Kong, française, c'est le Comptoir National d'Escompte de Paris. C'est la première banque française à Hong Kong, et je pense qu'il y a des tractations pour que cette présence financière s'accompagne d'un appui consulaire. Bon, ce comptoir national d'escompte va rester peu de temps, en fait, puisqu'il est remplacé après, en 1894, par une agence de la Banque de l'Indochine qui aura, elle, beaucoup de succès. Ce qui est intéressant quand même quand on fait un peu la, cette proto-histoire des Français à Hong Kong, c'est que les Français sont quand même très partagés sur les chances de succès de Hong Kong. Et de ce que j'ai vu dans les archives, il faut vraiment attendre 1895, 1897, le tournant du siècle. Je cite 1897 précisément parce que c'est l'époque de la mission lyonnaise, qui est une mission économique importante de la Chambre de commerce lyonnaise en Chine. Il faut vraiment attendre cette époque-là pour que vraiment, de manière unanime, les Français commencent à dire, pour faire du commerce, Hong Kong, c'est l'endroit où il faut être absolument. Et vraiment, là, à partir de là, on commence à reconnaître Hong Kong comme un endroit absolument essentiel, pour ne pas dire incontournable, en Extrême-Orient. Avant, j'ai toujours vu des commentaires mitigés, voire même franchement négatifs. Un des commentaires qui revient le plus souvent, les Français sont très attachés à la géographie et ne comprennent pas pourquoi les Britanniques se sont installés sur un rocher aride. L'aridité du rocher, ça revient toujours dans les correspondances. Les Français ne comprennent pas pourquoi les Britanniques se sont installés là. Britanniques qui, eux, ont peut-être été un peu plus visionnaires, ils n'ont pas vu la terre, ils ont vu avant tout le port que représentait Hong Kong. Hong Kong, c'est un port en eau profonde, ce qui n'est quand même pas toujours courant. Et puis surtout, par la géographie de Hong Kong, la géographie de l'île, notamment Causeway Bay, c'est des abris naturels, notamment en période de typhon. Donc voilà, les Britanniques ont peut-être vu à Hong Kong ce que les Français n'ont pas su voir, ou en tout cas ce qu'ils ont vu beaucoup plus tardivement.
Première présence française que tu étudies et qui est la première partie de ta thèse, c'est la présence officielle avec le consulat. Consulat qui a la particularité d'être petit, sous la tutelle de l'ambassade de France d'Angleterre et de la délégation de Pékin, et qui subit les interférences du consulat de Shanghai et surtout du gouverneur général de l'Indochine. Ce qui fait de ce poste l'une des pièces centrales du dispositif français en Asie.
Alors oui, ça commence comme un petit consulat parce que effectivement le nombre de Français inscrits au registre est finalement peu nombreux et ça va rester d'ailleurs sur toute la période. Hein, si je peux me permettre de faire un petit point démographique, ouais. En 1919, 80 Français sont enregistrés et en 1937, on en compte 162. Alors ça compte hommes, femmes, enfants, Français, mais ça ne tient pas compte de tous les Vietnamiens, fort nombreux à Hong Kong, hein, qui sont donc sous la protection française. Et puis, ça ne compte pas également les Français de passage. Et surtout, ça ne compte pas tous les Français qui ne veulent surtout pas faire savoir qu'ils sont présents sur le territoire de Hong Kong. Escrocs, malandrins, prostituées, on y reviendra peut-être. À mon avis, on peut doubler les chiffres avancés. À chaque fois, on est toujours entre 150 et 300-350 Français sur le territoire dans l'entre-deux-guerres. D'un point de vue administration consulaire, c'est un petit consulat. Mais très rapidement, on s'aperçoit, et c'est quand je parlais de redéploiement diplomatique, après la Première Guerre mondiale, on y met toujours des consuls qui ont déjà beaucoup d'expérience. Des consuls du cadre, ce qu'on appelle du cadre chinois, donc des gens qui ont beaucoup d'expérience avec l'Extrême-Orient. Et généralement, ce sont des personnes qui, d'un point de vue grade, sont des consuls généraux. Alors, ce qui d'ailleurs donne lieu à tout un tas de tracasseries administratives. Ces consuls sont très fâchés en général d'avoir le statut de consul général sans que le poste soit considéré comme un consulat général. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, bon, d'abord financiers pour eux, à titre personnel, et puis après en termes de prestige pour le poste. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, le consulat, on le voit aussi dans la carrière de ces agents, généralement, c'est un tremplin, soit c'est un bâton de maréchal avant la retraite, soit pour ceux qui ont commencé vraiment en bas de l'échelle de la carrière consulaire. C'est vrai qu'à cette époque aussi, on voit la carrière consulaire et la carrière diplomatique tend à s'effacer, il n'y a plus vraiment de différence entre les deux, et c'est aussi un tremplin pour passer de la carrière consulaire à la carrière diplomatique. On a des consuls qui deviendront ensuite consuls généraux et ministres plénipotentiaires après leur passage à Hong Kong. Soit dit en passant, ça n'a pas changé aujourd'hui, Hong Kong est un consulat général, souvent, c'est un très très beau poste pour envisager un passage dans une ambassade ensuite pour un consul général en poste à Hong Kong. Mais bon, pour revenir à notre époque, c'est vrai que s'aperçoit que Hong Kong devient un carrefour essentiel, un carrefour des débouchés du sud de la Chine, carrefour entre Saïgon et Shanghai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment équidistant en termes de navigation. On a cette double tutelle, bon, une présence britannique, enfin, de l'ambassade de France à Londres, qui est purement symbolique en fait, hein, et c'est surtout la légation, jusqu'en 1936, après ça devient une ambassade, c'est surtout en fait la légation de France à Pékin qui est la véritable autorité. Et ça c'est quelque chose que j'ai souligné et qui me paraît très important, c'est cette omniprésence du gouvernement général d'Indochine. Ouais. Omniprésence financière, il finance énormément de choses. Quand je dis de choses, c'est très vague, mais c'est parce qu'en fait, il finance beaucoup le consulat de France. Ça peut être la réfection du toit de la résidence, comme c'est l'achat de machines à écrire, comme ça va être des enveloppes financières pour la valise diplomatique, qui théoriquement n'est quand même pas l'apanage du ministère des colonies et du gouvernement général d'Indochine, et aussi des postes, une secrétaire, un chancelier. Une grande partie du budget de fonctionnement du consulat de France à Hong Kong dépend directement du gouvernement général d'Indochine. Donc déjà ça, on a quelque chose d'assez exceptionnel, et ça en dit long aussi sur les ambitions du gouvernement général vers le sud de la Chine. On a une époque où voilà, on a les yeux tournés vers le Yunnan, et bah, une des portes d'entrée vers le Yunnan, c'est certes, on a beaucoup travaillé sur les chemins de fer et sur la liaison entre le Tonkin et le Yunnan, mais on oublie aussi que le port de Hong Kong, c'est une manière, via le Guangdong et le Guangxi, d'aller approfondir un peu les relations qu'on a avec cette partie de la Chine. Donc il y a vraiment une importance du gouvernement général d'Indochine, et on le voit d'ailleurs dans la masse de correspondances. À un moment donné, d'ailleurs, il y a un consul qui s'appelle Yves Ducourtial qui dira, je cite, le consulat à Hong Kong est avant tout celui de l'Indochine. C'est-à-dire qu'il se présente avant tout comme un consul de l'Indochine plutôt qu'un consul de France. Ce qui est quand même quasiment un crime de lèse-majesté à l'égard de sa hiérarchie. Bon, d'ailleurs, lui, il ne va pas faire long feu, mais pour d'autres raisons. Donc voilà, c'est un poste qui est quand même très particulier au sein du cadre d'Orient, avec cette importance du port. C'est une escale très importante, hein, pour les messageries maritimes. La présence d'une bourgeoisie chinoise qui est très connectée au sud de la Chine. Après 1911, l'aristocratie chinoise a fui vers Hong Kong, et puis la bourgeoisie s'est trouvée, elle, plus à l'aise et en sécurité sur le territoire de Hong Kong. Il ne faut pas oublier qu'on compte énormément de compradors, qui sont ces intermédiaires chinois pour les négoces.
Et de riz, par exemple, hein, riz très important pour le commerce indochinois.
Exactement. Donc, c'est là qu'on trouve toutes ces personnalités extrêmement importantes, et donc, qui sont d'ailleurs des informateurs, souvent, pour le consul. Puis on est sur un territoire britannique, c'est aussi une manière d'avoir une certaine qualité de vie et une sécurité. La vie pour les consuls qui sont postés en Chine est souvent dure et souvent compliquée, elle est éreintante, elle est fatigante, et c'est vrai que se retrouver à Hong Kong, à part pour quelqu'un comme Claudel qui en 1906 ou en 1909, je ne sais plus exactement, a refusé le poste de Hong Kong, qui était alors pourtant une promotion, et qui a un peu snobé le port de Hong Kong en disant que ce n'était pas assez chinois pour lui. Généralement, personne ne crache sur une mutation à Hong Kong. Au contraire, c'est vu comme un très très beau poste, et puis surtout une manière de vivre dans un confort bien plus important qu'auparavant.
Autre intérêt du poste d'Hong Kong pour l'Indochine, c'est aussi, donc on l'a dit, hein, parce que Hong Kong, c'est une plateforme pour le riz indochinois. Le consul, parfois, se fait même représentant de commerce des productions indochinoises avec une sorte d'exposition au consulat. Et aussi, Hong Kong, ça permet, comme c'est un territoire britannique, ça permet aussi de surveiller les futurs, on va dire, indépendantistes. Hein. Par exemple, on a cette histoire de l'arrestation du futur Ho Chi Minh par les Anglais, qui sera une bataille juridique entre la France et l'Angleterre.
Oui, encore une fois, ça nous permet d'insister sur les liens entre Hong Kong et l'Union indochinoise. Alors, il y a le riz dont tu faisais mention, qui est massivement exporté vers Hong Kong. Je reviens sur le riz quand même avant de parler de la clause d'extradition, parce que le riz du Tonkin était exporté massivement vers Hong Kong, et là, il devenait ce qu'on appelait le Hong Kong Rice. En fait, le Hong Kong Rice, jusqu'à une époque assez récente, hein, dans les années 70-80, c'est un riz d'excellente qualité qui est un riz mélangé, en fait. Et ce Hong Kong Rice est en fait un riz qui venait souvent d'Indochine. C'est aussi un lieu qui permet de surveiller en amont la communauté chinoise. Avant de parler de la communauté vietnamienne, c'est aussi une manière de surveiller les Chinois, et notamment l'énorme communauté chinoise qui vit en Indochine, surtout par exemple du côté de Cholon, à côté de Saigon. On veut maîtriser cette diaspora chinoise, et on la maîtrise dans le goulot d'étranglement que représente en fait l'embarquement sur les navires, et notamment, c'est un sujet quelque part d'actualité, d'un point de vue sanitaire. Hong Kong n'est pas épargné par la variole, n'est pas épargné un peu avant l'époque qui nous intéresse par la peste. Il y a des épidémies très souvent, et donc les autorités sanitaires essayent de contrôler cette communauté chinoise qui échangent énormément en fait entre Saigon, Haiphong et Hong Kong. Il y a énormément de transactions d'argent et énormément de passages de population. Et donc il faut absolument maîtriser cette population. Et le gouvernement d'Indochine, le gouvernement général d'Indochine, donne comme mission au consulat de Hong Kong, eh bien, de surveiller ces migrations chinoises. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, évidemment, après, tu l'as mentionné, c'est un carrefour stratégique pour surveiller les Vietnamiens, les dissidents vietnamiens. Et là, on a une activité qui est intense. C'est vrai que Nguyen Ai Quoc, l'arrestation de Nguyen Ai Quoc, futur Ho Chi Minh, elle est assez...
En 1925, hein.
Alors non, cette arrestation, elle a lieu en 1930. C'est une affaire qui dure très longtemps. En fait, les affaires d'extradition, elles sont nombreuses. Quelque chose qui revient très souvent dans les correspondances consulaires. Il y a un traité d'extradition entre la France et l'Angleterre. Et la question est de savoir, est-ce que ce traité d'extradition s'applique entre les colonies de ces deux puissances? Et pour tout un tas de raisons qui seraient longues de développer ici, les gouvernements français et anglais sont assez timides pour affirmer que oui, ce traité s'applique entre les colonies. Parce qu'on sait bien que, notamment dans les colonies, il n'y a pas que les plus beaux spécimens de la France et de l'Angleterre. Et si on commence à extrader tous ceux qui sont recherchés d'un pays à l'autre, ça va donner énormément de travail aux forces de police. Et puis, on n'a pas toujours envie d'extrader les dissidents indigènes, parce que tout ce qui peut permettre parfois d'affaiblir ou en tout cas de gêner une puissance coloniale, bon, même si on est allié, c'est toujours bien vu. Ça peut toujours être intéressant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, Nguyen Ai Quoc, je ne dis pas qu'il est bienvenu à Hong Kong, hein. Il se cache, il est en dissidence, mais il va être arrêté. Et au moment de son arrestation, se pose effectivement la question de savoir si on l'envoie en Indochine, où il est condamné à mort par contumace, ou alors est-ce qu'on en fait quelque chose. Alors ça a été envisagé, il me semble, de ce que j'ai lu des archives, hein. Moi j'ai compris à un moment donné qu'on envisage de s'en servir un peu comme d'une monnaie d'échange, et puis après se mêle à cette histoire des avocats, c'est une histoire qui devient internationale, au nom des droits de l'homme, c'est un délit d'opinion, on n'a pas à le condamner à mort pour une affaire politique, et donc malgré les promesses du gouvernement général d'Indochine de ne pas exécuter la sentence, bon, vraisemblablement, les Anglais sont très gênés, et je pense, enfin, la lecture que j'en fais, c'est que d'un outil qu'ils ont voulu avoir de Nguyen Ai Quoc, c'est devenu vraiment quelque chose de vraiment encombrant. Mais bon, Nguyen Ai Quoc, c'est juste un peu le haut de l'iceberg. Hein. Il y a une activité...
une activité étudiante, justement, voilà. Hein, c'est ta partie sur Hong Kong, nouveau centre d'intrigue. Avec les étudiants indochinois.
Voilà, et puis on a des espions. Alors il y a des taupes qui sont toujours identifiées par des lettres. Il y a une taupe à un moment donné qui est grillée. À un moment donné, on essaye d'introduire un agent qui vient d'Indochine. On a des doutes sur un des employés du consulat. Dans les années 30, on va même faire venir un inspecteur de la Sûreté Générale d'Indochine français qui sera en poste à demeure à Hong Kong pour dire quand même à quel point l'activité doit être importante, parce que en fait, le consul ne peut plus gérer le réseau d'espions. Alors, je ne sais pas quelle est l'ampleur de ce réseau d'espionnage, mais en tout cas, à un moment donné, il ne peut plus gérer seul ce réseau. Et puis, il n'est pas assez discret, donc on envoie cet agent de la Sûreté Générale. Donc, il y a quand même une activité vraiment importante. Et puis, il ne faut pas oublier que symboliquement, c'est à Hong Kong que le Parti communiste indochinois a été créé. avec toujours le fameux même Nguyen Ai Quoc, et puis le dissident communiste Jean Crémet, dont la vie est absolument extraordinaire, hein, mais bon, ça c'est un peu hors sujet, mais juste pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il suffit de lire le très beau livre de Koffer et Faligo qui s'appelle L'ère mine rouge de Shanghai, qui raconte la trajectoire complètement rocambolesque, un vrai roman d'aventure de Jean Crémet, et qui passe notamment à un moment donné par Hong Kong parce que il a pour mission de créer le Parti communiste indochinois pour fédérer un peu tous ces mouvements dissidents.
Deuxième axe de tes recherches, c'est surtout la présence économique française sur le territoire. Quelles sont les principales aventures entrepreneuriales françaises et aussi pourquoi elles sont majoritairement des échecs ?
Alors oui, évidemment, les aventures sont pas forcément des aventures positives, mais d'abord ce qu'il faut souligner, c'est que il y a peu de grandes entreprises françaises qui s'installent à Hong Kong. Ce sont beaucoup des succursales commerciales, mais il y a quasiment pas d'industrie, par exemple. C'est vrai que coincé entre Saigon Hanoï et puis Shanghai, c'est un peu le revers de la médaille de la présence française à Hong Kong. Il y a peu d'implantations en territoire britannique. On n'a pas forcément confiance. Et puis, il y a une consigne, un mot d'ordre qui est de ne pas développer économiquement des activités sur un territoire qui n'est pas une colonie française. À choisir, évidemment, on incite davantage ces entreprises-là à s'installer soit à Saigon, Hanoï, Haiphong, soit à Shanghai. Ce qui d'ailleurs porte préjudice à certaines entreprises, hein, si on peut par exemple faire une première trajectoire, c'est celle des messageries maritimes. Les messageries maritimes ont une escale d'importance à Hong Kong, sur la ligne d'Extrême-Orient, hein, qui va de Marseille à Yokohama. On voit l'agent de Hong Kong, qui dirige l'agence de messageries maritimes à Hong Kong, batailler pendant tout l'entre-deux-guerres contre l'agent général de Saigon, l'agent général de Shanghai, lui, il est coincé entre cette hiérarchie, il n'est que simple agent directeur, et en fait, il n'arrête pas de dire, mais octroyez-moi plus d'espace dans les cargos, je peux vous apporter plus d'approvisionnement, plus de clients, plus de chargeurs, mais ce sont toujours les chargeurs indochinois ou les chargeurs de Shanghai qui priment par rapport à l'aliment que pourrait apporter l'agent de Hong Kong. Donc on voit bien là qu'il y a une volonté politique de ne pas donner plus d'importance que pourrait avoir Hong Kong. Alors, là, Messagerie Maritime, il ne faut pas oublier que c'est une compagnie, c'est un syndicat d'économie mixte, hein, c'est une compagnie en grande partie publique. Elle appartient à l'État, surtout depuis la signature d'une nouvelle convention en 1921. Et donc, on privilégie bien souvent l'intérêt public de la France, la continuité territoriale avec l'Indochine, etc., plutôt que les avantages économiques qu'on pourrait tirer d'une ligne maritime en Extrême-Orient. Par exemple, les agents disent « arrêtez de faire escale aussi longtemps à Saigon ». 3 jours d'escale à Saigon, c'est n'importe quoi, on perd 2 jours par rapport à nos concurrents. Et vous savez qu'à l'époque, c'est surtout une question de vitesse pour aller en Extrême-Orient ou revenir vers l'Europe. Et donc cette ligne des messageries maritimes, elle n'apparaît pas comme une ligne compétitive à cause de ces politiques françaises de privilégier ses propres territoires par rapport à la compétitivité économique. Bon, voilà, pour les messageries maritimes. Après, on pourrait aussi parler des charbonnages du Tonkin. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Les charbonnages du Tonkin, comme leur nom l'indique, sont des mines de charbon, donc dans le nord de l'Indochine. Mais étonnamment, on manque de capital. Pour aller chercher du capital pour fonder cette entreprise, eh bien, on va à Hong Kong. Et en fait, les actionnaires des charbonnages du Tonkin sont principalement des bourgeois de Hong Kong, anglais et chinois, et notamment le fameux Sir Paul Shatter, qui est un des hommes très puissants qui a fait Hong Kong, qui était un des actionnaires principaux au conseil d'administration des charbonnages du Tonkin. Donc on voit qu'une partie quand même de l'économie du Tonkin passe par Hong Kong à un moment donné. Et puis, on pourrait aussi évoquer les soyeux. Alors ça, c'est jusqu'au début des années 30, parce qu'après, dans les années 30, les soyeux subissent plusieurs crises qui réduisent un peu le volume de leur commerce et de leurs activités. Mais les soyeux, souvent installés au début dans le sud de la Chine, du côté de Canton, très rapidement installent leurs quartiers généraux à Hong Kong et exportent la soie du sud de la Chine en passant par Hong Kong. Donc là, on a des aventures qui sont des aventures positives, industrielles et commerciales. Après, on pourrait parler d'aventures beaucoup plus hasardeuses qui sont en fait des petites entreprises d'import-export, des commerces de petite envergure, mais jamais des grosses activités. Ce sont des initiatives privées. On a un peu l'impression parfois que certains entrepreneurs arrivent un peu, j'allais dire, sac à dos, comme le font encore aujourd'hui certains, installent un petit commerce qui a des compétences de pâtissier, va installer une pâtisserie à Hong Kong, qui profite du prestige français et a des talents en couture, va installer un cabinet de modiste, une mercerie, etc., etc. On a des petits commerces comme ça qui s'installent, mais qui font rarement succès et recettes à Hong Kong. D'abord parce que là, les choses n'ont pas changé non plus de ce point de vue-là. Les loyers sont extrêmement chers à Hong Kong. Et sans une aide, sans un appui financier de la part d'une structure plus importante, ces petits commerces font rarement succès et recettes. D'ailleurs, c'est aussi souvent là qu'on voit d'honnêtes commerçants d'aventure en mésaventure devenir petit à petit des escrocs. Il y en a un par exemple là, qui s'appelle Jules Durand, qui a essayé de monter un café, qui a essayé de monter plusieurs entreprises. À un moment donné, il a essayé aussi de créer une petite industrie basée sur des moteurs. Et puis à chaque fois, ça va d'échec en échec, et puis bon, il finit carrément par être traîné en justice, et puis à avoir énormément de problèmes d'argent, à être accusé de vol, etc., etc. C'est aussi ça, les aventures entrepreneuriales françaises à Hong Kong.
Excuse-moi, il y a des produits de luxe comme aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve le luxe français dans l'entre-deux-guerres?
Oui, mais si on retrouve le luxe français, ça n'est pas le fait des Français eux-mêmes. Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais les présences désincarnées. C'est que on trouve le luxe français est très prisé à Hong Kong et par l'élite britannique. Il faut savoir que bon, cette élite britannique qui vit à Hong Kong, notamment au sein du gouvernement colonial, elle est en général francophone, faute d'être francophile parfois. Et puis, on a une bourgeoisie chinoise qui essaye de commencer à calquer son mode de vie sur les habitudes occidentales. Et quoi de mieux que de calquer le mode de vie occidental en allant chercher ce qui se fait de mieux, en tout cas dans l'image qu'on en a, dans les représentations mentales qu'on en a, que de boire du champagne, que de s'habiller avec la dernière mode, d'écouter des artistes sur son gramophone qui sont les derniers artistes à la mode, etc., etc. Et là, oui, effectivement, le luxe français a énormément d'importance. Là, on pourrait citer un certain nombre de produits, j'ai cité le champagne, mais on pourrait parler des parfums également. Et d'ailleurs, un des indicateurs pour voir que le luxe est prisé, ça se voit par la contrefaçon. La contrefaçon de produits de luxe français explose dans l'entre-deux-guerres, le parfum notamment, mais également les cognacs et tous les spiritueux sont largement contrefaits en Extrême-Orient, et souvent Hong Kong d'ailleurs fait office de plateforme pour diffuser ces contrefaçons. Et puis évidemment, hormis le sujet des contrefaçons, un certain nombre de, et ça je l'ai vu à travers notamment les messageries maritimes, un certain nombre de compagnies d'import-export britanniques, mais rarement françaises étonnamment, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours expliqué, mais ce ne sont pas les Français qui ont le monopole de l'importation de leurs propres produits. Ce sont souvent des grosses compagnies d'import-export britanniques qui ont le monopole sur des grands commerces comme les Wingon et les Sincères, qui sont des ancêtres des premiers shopping malls hongkongais, qui, eux, ont le pouvoir d'acheter en plus grande quantité et donc d'importer du luxe à Hong Kong. Mais le luxe français se voit beaucoup, oui.
Yeah.
quittons cette présence économique avec ton troisième grand axe, et là on va entrer plus en détail dans cette, on va dire, dans cette communauté de Français de l'étranger. On va tenter donc de faire un portrait. Quelles sont, par exemple, leurs classes sociales, quelles sont leurs activités professionnelles? Comment est-ce qu'on peut faire, oui, un portrait robot de cette communauté?
Ouais, c'est délicat. J'ai employé le terme de sociologie des Français de Hong Kong parce que il m'apparaissait difficile d'entrer dans une typologie vraiment avec des tiroirs, des boîtes précises. Et le terme de sociologie me paraissait plus satisfaisant dans le sens où il me permettait de mettre des contours un peu plus flous autour de ces personnes. Parce qu'on a une grande variété sociale au sein de ces Français. Et puis parfois, les frontières sont perméables. On peut être à la fois un escroc et faire du trafic d'armes et être en même temps un commerçant, tout ce qu'il y a de plus honorable, installé sur le même palier que le consulat de France et faire un trafic de bois avec l'Indochine. C'est le cas notamment d'une famille de Corse, là, les Paoli, qui pendant quelques années en fait ont ce commerce de bois avec le centre de l'Indochine, avec la NAM. Ils sont en bonne relation avec le consulat, ils participent aux souscriptions lancées par le consul, j'ai notamment en référence le monument à la mémoire d'Aristide Briand, on les voit, c'est les premiers contributeurs, etc. Puis quand on gratte un petit peu après, on s'aperçoit qu'ils sont associés à d'autres Corses qui, eux, sont dans le trafic d'armes, dans la traite des blanches, comme on dit aussi à l'époque. Et donc, on a une présence beaucoup plus interlope et beaucoup plus illégale. Et donc, c'est quand même très délicat, parfois, de mettre des frontières précises entre ces personnes. On a évidemment, pour faire très, très, très schématiquement, hein, des grands patrons des institutions françaises, le consul, le banquier, les directeurs des agences maritimes, etc. Donc là, on est vraiment dans l'élite. Et puis après, on a toute cette population qui vit autour de l'institution, des ingénieurs, des commerçants, qui en général ont un lien encore avec la métropole, ou si ce n'est la métropole, au moins avec les sièges sociaux de Shanghai ou d'Indochine. Et donc, ils ont des positions sociales qui sont attestées non pas parce qu'ils font à Hong Kong, mais parce qu'ils sont des envoyés d'une institution plus grande qu'eux, plus importante qu'eux. Ils arrivent estampillés par une institution. Et donc, ils sont reconnus comme dans l'élite de cette communauté française. Et puis après, très rapidement, dans ce dégradé, eh bien, il y a tous les autres qui, eux, arrivent sans recommandation. Et à cette époque-là, la recommandation est quelque chose d'être très important. Combien de courriers j'ai pu lire de gens qui se recommandent d'un consul, qui se recommandent d'une personnalité plus ou moins bien placée au ministère, et quand on creuse un peu, on voit que c'est complètement faux. Et parce que on est obligé de faire confiance à une époque où les réseaux sociaux ou les communications ne permettent pas d'avoir une réponse précise et rapide sur la fiabilité d'une personne, on doit faire confiance à des recommandations. Et on s'aperçoit que y a tout un tas de gens qui vivent en dessous de ce radar, et donc ce sont ces contrebandiers, ces escrocs, cette présence interlope qui, elle, m'a beaucoup intéressé parce que on ne veut pas la montrer. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand on parle des Français de l'étranger, il y a deux petits ouvrages qui font référence sur les Français de l'étranger. Un écrit par un sénateur, Cantegrit, en 97, et puis un autre écrit par René et Vivien, l'un étant secrétaire d'État. L'ouvrage a été écrit au début des années 2000, je crois. Quand on les entend parler des Français de l'étranger, on a une présence rayonnante, une présence absolument fantastique, pleine d'allants, d'entrain pour aller diffuser le rayonnement culturel français par-delà les frontières, etc. etc. C'est très joli, mais en réalité, ça occulte une énorme partie des présences françaises, c'est-à-dire celles qu'on veut cacher, et puis celles qui d'ailleurs ne veulent pas faire savoir qu'elles sont présentes. J'essaye de partager cet exemple-là parce que j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en valeur. C'est l'exemple des prostituées. J'ai été interpellé par un courrier du consul en 1931. La Société des Nations, à l'époque, envoie des courriers, des circulaires, avec un projet d'abolition de la prostitution à travers le monde. Et le consul à Hong Kong, Georges Dufort de la Prade, répond bien embêté qu'en 1931, eh bien, quand on fait le recensement des prostituées occidentales à Hong Kong, la moitié sont françaises. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et il n'en dit pas plus. Donc, il a fallu faire parler en creux certaines archives, découvrir le livre du journaliste Henri Champly, dont j'oublie le nom à l'instant, je crois que c'est La Route de Shanghai, qui parle de la traite des Blanches en Extrême-Orient, pour petit à petit découvrir en fait un monde interlope de la prostitution française en Extrême-Orient. C'est vrai qu'à Shanghai, on a beaucoup parlé des prostituées russes.
La concession française, oui, on décrit toujours la concession française de Shanghai comme étant le plus grand bordel d'Asie.
Exactement, mais on ne met pas en valeur particulièrement les femmes de nationalité française. On parle d'ailleurs beaucoup de Russes blanches, mais là, j'ai été interpellé par le côté français. Et puis, plus j'ai mené mon enquête, plus je me suis aperçu qu'en fait, Hong Kong est en fait un refuge pour ces femmes. Souvent, elles sont passées auparavant par l'Indochine ou par Shanghai. Elles ont été chassées par la sûreté de ces territoires parce qu'elles se sont trop fait connaître ou elles étaient associées à un mauvais souteneur qui n'a pas été assez discret ou a eu des problèmes avec la police. Et elle se trouve embrigadée dans des histoires souvent très dures et très, très compliquées. Hong Kong, en fait, elles n'ont pas les moyens de rentrer en France. Donc, Hong Kong représente le lieu le plus sûr où on peut avoir ce genre d'activité à proximité de l'Indochine ou de Shanghai. On voit que ces femmes, dont certaines arrivent à un moment donné à s'émanciper, non pas de leur travail, mais à s'émanciper de la tutelle masculine, arrivent à devenir travailleuses indépendantes et certaines d'entre elles pratiquent cette activité même après la prohibition en 1931 à Hong Kong, puisque cette prohibition n'est évidemment que sur le papier. Et c'est ces trajectoires qui m'ont intéressé parce qu'elles en disent long aussi sur cette France qu'on veut cacher. Parce que pourquoi aussi ces prostituées ont beaucoup de succès et pourquoi elles arrivent à trouver des places dans les maisons closes de Hong Kong? Eh bien, il faut le dire comme c'est qu'à un moment donné, elles représentent aussi quelque chose. Elles sont françaises et elles se vendent comme françaises. Donc sur le plan culturel, leurs clients, qui sont à la fois des Occidentaux, mais aussi, et parfois l'une d'elles dit surtout, des Chinois, évidemment des membres de la bourgeoisie chinoise, eh bien, achète les services d'une Française aussi, non pas d'une Occidentale simplement. Donc ça en dit long aussi sur le plan culturel, sur les représentations qu'on peut se faire et les fantasmes qu'on peut avoir sur le luxe, sur le prestige d'une nation. Ça vient aussi par ce genre d'activité, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise.
Et aussi, dernière question sur cette communauté française d'Hong Kong. Est-ce qu'à l'instar, par exemple, des colonies d'Indochine, est-ce que cette communauté recherche à créer à Hong Kong une sorte de petite France, hein, comme c'est le cas, je pense, par exemple, dans les villes côtières d'Indochine, où les colons parlent, par exemple, de Trouville du Tonkin, de Deauville de l'Indochine. Est-ce qu'elle recherche à refaire une petite France à l'étranger ou pas?
Alors oui et non. Disons que si on s'attend à trouver une communauté française structurée avec un club, par exemple, moi j'ai cherché, quand j'ai fouillé, je me suis dit, il y a forcément un club français avec cette activité.
Les clubs existent en Indochine.
Voilà.
Les clubs existent au Cambodge et en Indochine.
Exactement.
Mais là, des clubs de sport, par exemple.
Les cercles, par exemple, effectivement, le cercle sportif de Saigon étant un exemple bien connu. Là, il n'y a pas de cercle français ou de club français. Alors que, par exemple, les Allemands, jusqu'en 1914, ils ont un club Germania dans un très, très beau bâtiment, très prestigieux. Et on voit que c'est un instrument du rayonnement de l'Allemagne. Et pas de club. Mais même plus que ça, il n'y a même pas la volonté ou l'idée de créer à un moment donné un club. La seule initiative qui peut s'en rapprocher, c'est une vague succursale de la Chambre de commerce, mais en fait, c'est une succursale de la Chambre de commerce et d'industrie de Shanghai. Et en fait, elle est complètement phagocytée par l'Indochine et par Shanghai. Elle n'arrive pas à avoir une autonomie pour ce qu'elle est à Hong Kong. Et puis, deuxième initiative, qui est l'initiative d'un consul, c'est une initiative plus personnelle qu'autre chose, c'est une bibliothèque française. On a effectivement, à la fin des années 20, début des années 30, la création d'une bibliothèque française au sein du consulat, qui va attirer beaucoup de francophones et de francophiles, où là, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, on va voir se mélanger des membres de la communauté française et de la communauté étrangère, notamment beaucoup de Britanniques francophones qui veulent lire en français. Et là, on peut supposer que sur le palier du consulat, dans cette salle réservée à la bibliothèque, eh bien, les gens discutent, les gens échangent, et peut-être que ces conversations se poursuivent au café parisien qui est à 50 ou 100 mètres de là, à côté de Pedder Street, donc toujours dans Central. Voilà, tout ça, c'est vraiment informel. Et pourquoi il n'y a pas cette volonté de créer un club, et pourquoi il n'y a pas de cercle? Parce qu'à mon avis, on revient toujours sur le même problème. La communauté, finalement, d'un point de vue démographique, elle est relativement réduite. Elle est hétérogène et puis elle est toujours, toujours tiraillée entre l'Indochine d'un côté, Shanghai de l'autre. Et donc, à choisir, eh bien, on a des membres de la communauté française à Hong Kong qui sont membres des chambres de commerce de Shanghai plutôt que de promouvoir ce qui pourrait se faire chez eux. Ce qui n'empêche pas, et là c'est le dernier point aussi sur le sujet, ce qui n'empêche pas, et là on comprend l'intérêt, tous ces membres de l'élite française à Hong Kong, donc tous ceux, je disais, banquiers, consuls, directeurs d'agence, etc., d'être eux membres des clubs anglais, notamment le fameux Hong Kong Club. Tous les gens que j'ai cités sont membres du Hong Kong Club. Le consul, tout comme le directeur des messageries maritimes, tout comme le directeur de la Banque de l'Indochine, rapportent des informations qu'ils ont obtenues au sein de ce Hong Kong Club. Donc là, on peut voir que plutôt que de se replier sur soi et de faire une petite France, Hong Kong est une tête de pont pour pénétrer en fait le marché britannique et chinois. Et donc, on a plutôt intérêt à être au sein de ces clubs et de ces cercles britanniques. Ça, c'est important.
Moi, pour rien te cacher, le chapitre qui m'a vraiment fait beaucoup rire et que j'ai très apprécié dans ta thèse, même si vraiment la totalité de la thèse est vraiment un excellent travail, c'est surtout ce chapitre, et je reprends là le livre de Gregor Müller, les bad Frenchmen, les mauvais Français. C'est cette partie où vraiment tu décris justement ce que tu parlais, hein, ces présences de Français que le consulat veut cacher, hein, c'est tous ces escrocs. Alors on peut citer Antoine Poli et la contrefaçon de la pièce indochinoise, Pierre Agostini et ses vrais faux bureaux d'affaires, Louis Lacouture qui est un escroc du parlant annamite chinois malais avec l'accent du midi. C'est vraiment le chapitre de la thèse, moi, qui m'a fait vraiment que j'ai le plus apprécié. D'une part, ça m'a fait souvenir à mes travaux donc sur le Cambodge, quand on retrouve vraiment ce genre de filou. Mais on peut s'attarder sur, pour moi, qui est un peu le roi de tous ces filous, c'est quand même Francis Vetch.
Ah oui, alors lui, j'ai beaucoup de... Alors, on ne peut pas dire d'affection pour lui, mais à un moment donné, on est bien obligé d'admettre quand même que parfois, on a un peu d'attachement pour certaines personnes qu'on côtoie et qu'on finit par apprécier. Alors apprécier, dans son cas, lui, c'est un peu particulier quand même, mais c'est vrai que je te remercie du compliment. D'ailleurs, c'est rare qu'on dise d'une thèse qu'elle fasse rire. Alors, je ne sais pas si vraiment, au final, un compliment, mais c'est vrai que j'ai pris...
Non, mais ce chapitre en particulier, car c'est vraiment des destins de cinéma.
Mais d'ailleurs, voilà.
Je conseille vraiment à ceux qui nous écouteront de lire toute la thèse, mais aussi ce chapitre-là, car on a vraiment des scénarios de cinéma.
Bah, c'est vrai qu'il y a des côtés un peu truculents parfois quand même, et je me suis fait un peu plaisir en augmentant peut-être un peu plus que de raison, puisque la thèse était déjà un peu trop longue, c'est pour ça que je suis en train de la réduire en vue de sa publication. C'est justement ces passages-là que je réduis aussi un peu, parce que bon, j'ai voulu creuser un peu ces Français qui, par manque de sources, était dans l'ignorance absolue. Et je me suis dit que c'est l'occasion ou jamais, eh bien, de faire ressortir ces trajectoires. Alors, c'est vrai que là, il y a l'embarras du choix, hein, parce que si on faisait le compte des présences françaises, numériquement, je ne suis pas sûr que ce soit les présences honorables qui soient les plus nombreuses, en définitive. Tu évoquais les Corses, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont quand même ceux que l'on côtoie à Hong Kong sont quand même de sacrés crapules. On a aussi le capitaine Menanto qui fait le transport de l'opium entre Fort Bayard et Hong Kong, et qui, quand il se fait arrêter par les autorités britanniques, leur donne les connaissements de bord avec directement écrit dessus toute la cargaison d'opium, qui n'a absolument aucune vergogne ni aucun scrupule dans le trafic qu'il fait. Et en même temps, on voit aussi qu'on est dans des zones, dès qu'on sort de Hong Kong, ces gens-là sont très peu inquiétés pour ce qu'ils font, et on est souvent dans des zones de non-droit. Je pense notamment au capitaine Menanto. À un moment donné, il trafique de l'opium, il est arrêté à Canton, il menace avec son pistolet un agent des douanes, il s'en prend à un agent occidental, c'est important. Et en fait, la seule raison pour laquelle il va être inquiété, c'est parce qu'il a menacé avec son arme un blanc. Le fait qu'il ait molesté un agent des douanes chinois et qu'il ait transporté de l'opium, une fois qu'il est de retour à Fort Bayard, aucunement inquiété pour ces choses-là. Donc voilà, on voit aussi le côté permissif qui, à un moment donné, peut laisser penser à certaines personnes qu'elles peuvent tenter l'aventure plus ou moins légalement. Et alors donc, tu évoquais Francis Vetch. Bon, Francis Vetch, c'est quand même un personnage de roman, là... Mais d'ailleurs, quasiment au propre comme au figuré, parce que sa vie en Asie commence par l'association avec la littérature. Moi, j'ai fait sa connaissance lorsque, en 1900, dans les archives, hein, sa connaissance, mais c'est vrai, je parle en historien trop accaparé par ses archives, mais on fait sa connaissance dans les archives lorsque, en 1900, il prend un navire avec sa femme et ses enfants pour l'Extrême-Orient. Et il rencontre à bord de ce navire Paul Claudel, qui, à l'époque, part vers Fuzhou. Il va, dans une manigance un peu scabreuse, envoyer sa femme dans les bras de Paul Claudel. Et puis, alors l'histoire, pour ceux qui aiment Paul Claudel, la connaissent peut-être, hein, Rosalie Vetch, finalement, d'intrigante, va devenir amoureuse de Paul Claudel. Ça va devenir la grande passion de Paul Claudel. Et Francis Vetch, qui veut intriguer contre Paul Claudel et se servir de lui à Fuzhou, va se retrouver un peu, bah, après le divorce, seul. Donc c'est ce qui va inspirer d'ailleurs à Paul Claudel le partage de midi. Donc ça commence quand même comme une histoire de littérature. Pour faire simple, Francis Vetch, on le retrouve un peu partout en Chine. Et j'ai bien aimé l'expression qu'avait employée Marianne Lescouret, qui est une biographe de Paul Claudel, qui disait « Francis Vetch, c'est un affairiste porte-poisse ». Affairiste, voilà, c'est le terme n'est pas très gentil, mais c'est quand même la réalité. Il monte des combines financières et commerciales toutes plus intrépides et bancales les unes que les autres. Et puis porte-poisse, parce que franchement, quand on regarde sa trajectoire, c'est n'importe quoi. Il est négociant en charbon à Shanghai, mais il arrive à escroquer ses clients russes. Il est libraire à Tianjin, mais il est pourchassé par les jésuites. Il est brocanteur associé à un autre russe à Pékin, mais il arrive à lui voler de l'argent. Il fabrique de la contrefaçon de parfums. Puis, à un moment donné, on le retrouve à Hong Kong, où il a le même genre d'activité. Il envoie ses factures au consul. Et tout, le tout avec à chaque fois un panache et un culot absolument désarmant.
Et donc, d'ailleurs, toutes ces lettres sont vraiment... tout est dans l'outrance, hein.
Ah oui, oui. C'est, là, en parlant, je viens de chercher un document que j'avais écrit à son sujet là, dans le livre en 2012. À un moment donné, il y a un hôtelier qui lui confisque son passeport. Francis Vetch écrit « Tout homme, monsieur, a le droit de vivre. Je ne vous reconnais pas le droit de m'enlever le pain de la bouche. » Et puis, il poursuit ensuite en expliquant « Je m'incline devant pareil scandale et me déclare vaincu. Veuillez me considérer comme un prisonnier qui se rend et qui ne demande qu'à être traité humainement en considération de son grand âge, surtout du fait que sur ses trois fils qui ont combattu toute la guerre, un a versé son sang pour la France. Faites ce que vous avez à faire, je m'en remets à vous. » Et puis sur ce, il prend la fuite à Macao, il continue à envoyer ses factures au consulat. Et c'est ça qui est étonnant. Et en même temps, le 4 septembre 1939, il a 77 ans et il envoie une lettre au consul et il dit « Je me considère comme mobilisé au même titre que mes trois fils. Vous pouvez donc en toutes circonstances faire appel à mon dévouement pour la France. » Escroc et patriote.
Et en plus, son dernier fait d'armes, c'est d'avoir quand même créé la première librairie française d'Hong Kong.
Alors, je ne sais pas si ça ferait plaisir à leurs descendants aux deux librairies françaises de Hong Kong actuelles, Indosiam et Parenthèse, mais effectivement, elles sont quelque part indirectement héritières du Hong Kong French Bookstore, qui était sur Bonham Road. Et non seulement Francis Vetch, il est le créateur de cette première librairie française, oui, mais en plus, il est éditeur. Son premier livre édité, c'est « Ralliez-vous à mon palage blanc », livre qui n'aura jamais été payé d'ailleurs à l'imprimeur. Mais voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que ces trajectoires, elles étaient savoureuses. Et au-delà du côté, effectivement, un peu drôle quand même de ces trajectoires, ça en dit long sur les représentations mentales, ça en dit long sur l'éloignement et la manière dont on vit son statut de Français loin, à 12 000 km de chez soi. Francis Vetch, il est parti en 1900. Il est revenu très brièvement à la recherche de Rosalie Vetch, avec Paul Claudel d'ailleurs, dans les années 20. Mais il meurt à Saïgon en 1945. Donc 45 ans de sa vie est passé à arpenter l'Extrême-Orient. Et malgré tout, il y a un patriotisme et un attachement à la France qui n'est jamais pris en faute. Donc après, évidemment, le consul considère que ce sont des Français qui sont des représentants un peu gênants de la nationalité, mais ces gens-là, ils existent, on ne peut pas les négliger. Et j'ai trouvé que justement, dans les écrits que j'avais trouvés jusqu'à présent, ce sont des présences françaises qui étaient toujours passées sous silence. Parfois, faute d'archives, hein, tout simplement. Hein.
Pour terminer cette étude, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la présence française à Hong Kong ?
Alors, bah, très brièvement, cette présence, elle est toujours importante et plus que jamais dynamique, puisqu'on a aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres du consulat, dernière nouvelle, mais je crois qu'on avait dépassé les 12 000 inscrits officiellement au registre des Français établis hors de France, donc à Hong Kong, entre les Français de passage, les stagiaires, ceux qui ne sont pas déclarés au consulat. On estime qu'il y a peut-être entre 20 et 23 000 Français qui vivent à Hong Kong aujourd'hui. C'est une présence qui est extrêmement importante. Il y a plus de 800 entreprises françaises établies à Hong Kong. On a un lycée français extrêmement dynamique qui est aujourd'hui dispersé sur 4 lieux. On a une présence française qui est extrêmement dynamique et qui d'ailleurs, dans sa sociologie, évolue encore aujourd'hui. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Hong Kong en 2007, ça commençait à changer, mais on était encore dans une époque des expats qui vivaient essentiellement dans le sud de l'île, vers Repulse Bay et Stanley, qui étaient donc des gens qui venaient pour 3 ou 4 ans, des contrats très avantageux. Et on a vu quand même petit à petit, de plus en plus, évoluer cette communauté française vers des contrats locaux, davantage de métissage, et puis des gens qui restent beaucoup plus longtemps à Hong Kong, qui s'établissent durablement à Hong Kong, et qui commencent à vivre dans des quartiers ou des zones où l'immobilier peut être moins cher, ou en tout cas on peut s'installer plus durablement. Et notamment on voit la présence française s'installer dans les nouveaux territoires de plus en plus. Donc c'est vraiment intéressant de continuer à voir comment cette présence française elle est toujours extrêmement vivante à Hong Kong.
Pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils bibliographiques, alors historiques d'abord, pour approfondir donc son sujet ?
Bah, je vais commencer par un peu d'autopromotion, mais c'est vrai qu'en 2012, j'avais dirigé un ouvrage qui s'appelle « Hong Kong, présence française », qui est un ouvrage qui avait pour objectif de faire un panorama des présences françaises. On part de Auguste Borget en 1838 jusqu'aux dernières initiatives de la Chambre de commerce dans les années 2010. Et c'est un grand panorama tout public, richement illustré, fait avec plein d'articles et de cette présence française. On était 6 collaborateurs à travailler sur le sujet. Et ça a été aussi un peu la graine qui a suscité l'intérêt pour développer ce sujet de manière un peu plus académique. Et puis j'espère de toute manière bientôt pouvoir présenter ma thèse, qui est le travail de refonte vient d'être achevé. J'ai profité du confinement pour réduire et retravailler ma thèse, donc j'espère qu'elle sera publiée très bientôt. Après, pour tout ce qui est le Hong Kong de cette époque, moi je conseille évidemment, pour ceux qui veulent s'imprégner d'une atmosphère, de lire tous les romanciers britanniques de cette époque. Moi, je conseille évidemment Joseph Conrad, qui, moi, m'a énormément accompagné pendant l'écriture de la thèse. Je crois qu'on a toujours besoin, quand on écrit de l'histoire, on a besoin de créer des images et de s'imprégner. Et je pense que ma thèse, dans l'écriture ou dans les images que j'ai peut-être inconsciemment glissées dans cette thèse, elle a été fortement inspirée par mes lectures de Joseph Conrad, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup accompagné, comme d'autres, mais celui-ci en particulier. On peut citer aussi Somerset Maugham, dont le roman Painted Veil, je ne sais pas comment c'est en français d'ailleurs, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais Painted Veil, qui a été d'ailleurs adapté plusieurs fois au cinéma, se passe en partie à Hong Kong. Et quand Somerset Maugham, en tant que médecin, est passé à Hong Kong, il a observé la société coloniale britannique à Hong Kong. Il en a fait un portrait un peu acide. Donc c'est intéressant pour se replonger dans cette époque-là. Après, sur les Français de l'entre-deux-guerres à Hong Kong, hélas, il n'y a pas grand-chose. On peut s'inspirer par contre d'excellentes lectures académiques qui ont été faites sur les présences françaises en Chine. Un ouvrage académique, mais qui reste généraliste, c'est « Les Français en Chine », un ouvrage qui a été dirigé par Jacques Weber. Puis récemment, plus pointu, sur les concessions françaises en Chine, on a Fleur Chabaille qui a travaillé sur la concession française de Tianjin. D'ailleurs, si on veut quelque chose d'un peu plus tout public, elle a d'ailleurs fait un très très beau travail sur la famille Bontemps à Tianjin à travers un espace numérique, un récit visuel sur Internet qu'on peut trouver facilement. Il suffit de mettre scalar.usc.edu, puis après on tape Tianjin Bontemps. Et on tombe sur ce très beau travail à la fois d'iconographie et de récit que l'historienne Fleur Chabaille a fait.
Oui. Et moi j'ajouterais la thèse justement de Dorothée Rial sur la concession française justement de Wuhan, un excellent travail sur une concession oubliée mais remise au goût du jour avec l'actualité.
Exactement, et c'est exactement le deuxième exemple que j'allais citer. Après, on a aussi Christine Cornet qui a travaillé aussi sur la France à Shanghai. Il y a quand même un mouvement académique actuellement pour davantage étudier. Alors, on a du retard par rapport aux Britanniques, c'est évident. Quand je vois les projets que met en place Robert Vickers, là récemment, via l'Université de Bristol, il a mis en place le Hong Kong History Project. C'est-à-dire qu'après avoir, non pas épuisé, mais largement arpenté l'histoire de Shanghai, il s'attaque maintenant à l'histoire de Hong Kong. Et c'est incroyable la qualité de son travail, enfin de son travail et des équipes qu'il arrive à mettre en place autour de lui. Moi, je rêve qu'on fasse un peu la même chose, ce que fait d'ailleurs son collègue, et je crois ami, puisqu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, Christian Henriot. Christian Henriot a mis en place des structures à Lyon pour travailler sur les concessions françaises en Chine. Et je crois que là, on a des beaux travaux qui vont finir par être davantage connus. Mais je pense que c'est important aussi, au-delà du côté académique, c'est important à un moment donné aussi de vulgariser ces connaissances et de faire en sorte que les Français se réapproprient cette partie de l'histoire de la France en Extrême-Orient, cette histoire mondiale de la France du coup.
Merci de votre écoute. Rendez-vous sur le site histoiredasie.fr pour retrouver l'iconographie et les conseils bibliographiques. La discussion se poursuit sur Twitter @histoireasie. Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur vos applications de podcast. À très vite pour un prochain numéro.